les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Nathanaël Picasse.
Dès 1976, Amistad Maupin entreprend un feuilleton sur sa cité pour le compte du San Francisco Chronicle. Tales of the City est né, bref, une sorte de journal de Bridget Jones et de Sex and the City avant l'heure. Le succès est rapide et très vite, sa renommée finit par dépasser les frontières. Portée au nu par la communauté homosexuelle ainsi que par les critiques quasiment unanimes, l'œuvre de Maupin est un véritable carton international. Pour nous en parler aujourd'hui, Nathanaël, bonjour Nat.
Bonjour Sarah. Alors, que sont les chroniques de San Francisco ? Alors, difficile à raconter, en tout cas au niveau de l'histoire, puisqu'il s'agit d'un ouvrage épisodique. Il n'y a donc pas à proprement parler d'une histoire, c'est plutôt une sorte de galerie de personnages. Les chroniques relatent donc le quotidien de ces personnages, qui sont tous plus attachants les uns que les autres. À dire vrai, la forme de l'écriture renvoie pratiquement directement à une sitcom. C'est basé essentiellement sur des dialogues et il y a très peu de descriptions et ça se situe en général dans le même endroit. C'est aussi avec un héros multiple. Il y a une héroïne principale, mais sinon à côté, il y a un bon nombre de héros qui gravitent autour. Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser qu'il s'agit d'une sorte de Beverly Hills ou de Melrose Place, à version écrite. Melrose Place, d'autant plus qu'ils habitent tous sous le même toit et que c'est vraiment une galerie de personnages. Donc c'est une série qui est une sorte d'imbroglio d'anecdotes et d'aventurettes qui sont rassemblées les unes aux autres par une tribu de personnalités qui partagent le même toit, qui est le 28 Barbary Lane. Alors la maîtresse du lieu est une mystérieuse et charismatique femme qui se fait appeler Anna Madrigal. Elle règne sans partage sur Barbary Lane, c'est une sorte de mère supérieure bienfaisante qui veille sur ses locataires, qu'elle appelle d'ailleurs ses enfants, et une de ses particularités est de sélectionner soigneusement ses locataires et de les accueillir comme il se doit avec un joint pour leur souhaiter la bienvenue, un joint qu'elle a cultivé et roulé maison. Elle est un petit peu excentrique, mais elle n'en reste pas moins une femme douce et généreuse, mais dont le passé serait révèle bien vite fort trouble. On va un peu révéler la chose, c'est que ce n'est pas tout à fait une femme, c'est plutôt un transsexuel. Alors ses locataires ne sont pas en reste, ils restent un peu dans le même style. Bon, bien qu'ils soient un peu stéréotypés, ils n'en sont pas moins étrangement attachants. À commencer par Michael, homosexuel, qui rencontre les pires difficultés du monde à rencontrer l'homme de sa vie, alors que son homme est juste sous son nez, et c'est-à-dire que c'est John, c'est un chirurgien qui est complètement amoureux de lui, mais au fil des bouquins et des saisons, je dirais, ils se séparent à chaque fois, et au début de l'épisode, ils sont séparés, et à la fin, ils se remettent toujours ensemble. C'est vraiment un peu toujours la même chose. Puis il y a Marie-Anne Singleton, qui est une jeune femme qui vient tout droit du fin fond de l'Ohio, qui est un peu la jeune femme ingénue, et qui est surprise un peu par les us et coutumes de San Francisco, mais qui va finir par s'y acclimater petit à petit, et qui va trouver un boulot là-bas, et qui va vraiment s'y plaire à Barbary Lane, et qui va devenir la meilleure amie de Michael, bien qu'au début elle ait un peu des problèmes avec l'homosexualité de son amie, elle va finir par s'y faire. Alors on peut encore citer Mona, qui est une jeune femme ésotérique qui est continuellement à la recherche de son identité. Elle finira par la trouver d'ailleurs, puisque elle va rencontrer sa grand-mère, qui est une mère maquerelle, et son père, qui est en fait Anna Madrigal. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et on peut aussi citer Brian, qui est une sorte de playboy qui accumule les conquêtes. Alors il y a d'autres personnages qui viendront encore compléter cette galerie déjà bien fournie, la mère Macrel, dont j'ai déjà parlé. Il y a une sorte d'arriviste salopard, une journaliste aux dents longues, une bourge qui va reprendre sa vie à zéro, ou encore une vieille dame BCBG qui décide enfin de s'amuser et qui rentre dans un centre, on va dire, où elle va pouvoir s'épanouir sexuellement. Alors voilà, tous ces personnages se rencontrent, s'entrechoquent, s'aiment, s'embarquent dans des aventures souvent drôles et parfois même bourrées de suspense, parce que cette galerie de personnages est en général sous-tendue par une intrigue donc générale qui est plutôt policière. Voilà.
Ça a l'air un peu compliqué ce que tu me racontes.
C'est
là.
Un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'il faut lire parce qu'il y a énormément de personnages et donc c'est vraiment une galerie de portraits avec en fin fond une intrigue policière qui s'ajoute.
Hello. Hello. I'm Mrs. Madrigal. As in medieval. You can't feel as ancient as I do. I've been apartment hunting all day. I'm Marianne Singleton.
Come on, I'll show you the flat. Well, there's a view. If you count a patch of bay through the trees, utilities included, small house, nice people. Did you just get here this week?
Is it that obvious?
The look is a dead giveaway. You can't wait to bite into that lotus.
I'm sorry?
Tennyson, you know, eating the lotus day by day, watching the crisping ripples on the beach and the tender curving lines of creamy spray
to lend our hearts and spirits wholly to the influence of
Does
something...
Does it come with furniture?
Don't change the subject while I'm quoting Tennyson.
I'm sorry. I didn't mean to be...
You'll get used to my babbling. They all do. Yes, some furniture's included. Are you?
Yes. Yeah. Yes.
Good. You're one of us then. Welcome to 28 Barbary Lane.
Thank you.
Yes, you should.
Do you have any objection to pets?
Dear, I have no objection to anything.
Les livres sont apparus dans les années 70, mais à partir du moment où il y a eu les livres, il y a déjà eu tout de suite une idée d'en faire une série, mais ça a mis énormément de temps à se mettre en place, et pour finir, ils ont trouvé quelqu'un, enfin en tout cas une boîte qui est Channel 4, qui a bien voulu les produire, et ils ont dû attendre 1993, et donc ça a été un petit budget, et puis aussi ça renvoie au fil, puisque ça se passe dans les années 70, donc ça a un petit côté aussi rétro, qui est des fois aussi un petit peu recherché forcément. La rubrique d'Armistead Maupin était tellement populaire, donc elle a paru aussi sous la forme de romans, et c'est à partir de ces romans que les producteurs ont eu l'idée d'en faire une série, ce qui ravit l'auteur, et pourtant c'est un véritable chemin de croix qu'il devra traverser avant de pouvoir monter son œuvre en mini-série. Pourtant, tout semblait bien parti au début, puisque dès 1979, Warner Bros. Mit une option sur les chroniques de San Francisco. On crut longtemps qu'il ne serait qu'une question de mois avant de voir apparaître la série sur les écrans, mais rien ne vint, et ensuite la crainte se met en place, puisque les gros boss du studio voulaient bien lancer l'adaptation télévisuelle des chroniques, mais à condition que certains ajustements soient réalisés afin qu'elle soit enfin présentable entre guillemets au public américain. Alors par ajustement, les producteurs entendaient pas de relations sexuelles entre hommes explicites, qui sont pourtant bien présentes dans les romans, et pas de joints. Alors donc Michael pouvait bien être homosexuel, mais il ne pouvait pas avoir d'image le représentant avec un autre homme, et Anna Madrigal ne pouvait plus offrir ses joints à ses nouveaux locataires, ce qui pourtant était quand même les principaux éléments
de la fiction. Ça aurait été une maîtrise, en clair.
Ça aurait été assez dommage. Au début des années 80, les droits de la Warner Bros. Passèrent à la chaîne privée HBO, mais à cette époque, le riganisme régnait en maître et nous étions en plein milieu de la génération SIDA. Et Hollywood prohibait un peu tout ce qui paraissait explicitement homosexuel. Donc les chroniques furent fréquemment remaniées pour être soi-disant présentables au public, mais aucun des projets ne finit par aboutir. C'est d'autant plus ironique maintenant de savoir que HBO a eu du mal à monter la série et qu'elle a rechigné à mettre des hommes, en tout cas montrer des images d'hommes ayant des relations sexuelle, puisque maintenant, à la limite, elle en fait son fer de lance avec des séries comme Sex and the City ou Six Feet Under. Puis, alors, durant les années 80 jusqu'aux années 90, le projet fut rejeté systématiquement par tous les grands réseaux de télévision américains. Et enfin, au début des années 90, au moment où Armistead Maupin venait de mettre fin à ses chroniques et la version papier, au bout de 6 livres, le projet renaît de ses cendres, puisque c'est Channel 4, le réseau télévisuel britannique qui avait produit des films tels que Howard's End ou The Crying Game, qui accepta de produire intégralement une mini-série de 6 heures basée sur le premier livre des chroniques de San Francisco. Miracle donc, d'autant que le réseau promit de filmer l'histoire exactement comme elle avait été écrite. Autrement dit, aucun ajustement. Channel 4 qui, quelques années plus tard, reproduira la série Queer as Folk, là, en tout cas la version anglaise forcément, puisqu'après il y a eu une version américaine qui est maintenant un peu plus connue. Une série Queer as Folk qui montrait des relations sexuelles entre hommes très explicites.
Les Anglais sont moins timorés que les Américains.
Oui,
encore
je
et
crois
toujours.
Que les Européens de façon générale sont moins timorés que les Américains, on va dire ça comme ça.
Your eyes. They're...
Hazel.
Yes. I don't think I noticed that when we met.
Well, we're in a different light now.
Yes, we are. I'll take her back, you know.
Who?
Mona. If you tell me to.
I wouldn't do that. I don't think she would come back, even if you wanted her to. Mr. Halcyon.
I'm a horse's ass, then.
No. Your son-in-law. Is she right?
Yes, absolutely. Have you told her, Anna?
About you? No, this is us, Edgar. Just us.
But she's like a daughter to you, isn't she? That's what I sense, anyway.
Yes. She is.
Isn't it hard not to tell her? I want to tell the whole goddamn world.
Not so much as a memo to your secretary.
She'll figure it out before Mona does.
I hope not.
Why? I've more to lose than you do.
Hand me my wrap, will you? It's colder than a witch's titty out here.
I didn't know nice girls knew that expression.
Well, they don't.
They used to say that during the war in France.
That's when I learned it.
What?
I was stationed in Monterey.
You were a wave.
I filed munitions reports for an admiral who drank too much. Shall we eat? I hope you like deviled eggs. And I dare you to guess my secret ingredient. Down the hatch. Good.
Alors, une série au petit budget, mais au casting intéressant.
Oui, un casting tout à fait intéressant. Alors, tout d'abord, ça va savoir que forcément le tournage, puisque ça parle de San Francisco, a eu lieu à San Francisco.
Ce qui est une bonne chose.
Même si c'est par des fonds britanniques. Et le casting est de choix, parce que dans le rôle de Anna Madrigal, on retrouve Olympia Dukakis. Alors, peut-être que le nom ne vous dit rien, mais c'est une actrice de talent qu'on avait pu apercevoir dans Maudite Aphrodite de Woody Allen, ou encore dans Working Girl en compagnie d'Harrison Ford et de Sigourney Weaver. Et qui a fait pas mal d'autres films après. Le personnage de Michael est interprété par Marcus D'Amico, puis dans les deux saisons suivantes par Paul Hopkins, tandis que Mona est interprétée par Chloé Webb, puis par Nina, alors désolé pour la prononciation, Nina Siemasco. C'est assez dommage d'ailleurs de voir qu'entre ces deux saisons, entre la première et les deux suivantes, ces deux personnages que sont Michael et Mona, qui sont quand même des personnages assez importants, c'est deux acteurs différents, d'autant plus dommage que les premiers acteurs étaient nettement plus doués que les seconds. Et puis bon, c'est toujours difficile quand on a mis quand même une tête ou un visage sur un personnage de le voir complètement changer et forcément jouer de façon différente. C'est vrai que là, j'ai trouvé ça assez dommage qu'on ne reprenne pas les mêmes acteurs. Donc voilà. Et afin de compléter le casting, on a aussi Laura Linney qui interprète Marianne Singleton. Alors notons au passage que Ian McKellen fait une apparition dans la première saison. C'est un grand acteur shakespearien qui est très engagé dans la lutte homosexuelle. Il en est un d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas encore mis de visage sur ce nom Ian McKellen, sachez qu'il s'agit de Gandalf du Seigneur des Anneaux. Ça je crois que les gens vont situer. Ou alors Magneto dans les deux films X-Men. Ma critique des chroniques de San Francisco. Je trouve que c'est une excellente série. C'est plutôt même un feuilleton quand même, puisqu'il y a une intrigue. Les personnages qu'Armistead de Maupin a écrit prennent vraiment vie sur le petit écran d'une bien belle manière. Nous entrons dans une dimension loufoque où les rebondissements les plus inattendus succèdent aux éclats de rire. La narration est fluide et chaque épisode se regarde avec grand plaisir. Il est d'ailleurs très difficile de se retenir de regarder le suivant dès qu'un épisode se termine. Il faut vraiment, dès qu'on en a vu un, on a envie de regarder le suivant parce que on se dit, allez, je veux savoir comment ça se termine. Et voilà. Même si le style reste simple et léger, les dialogues restent quand même le point fort de cette série. Les dialogues, forcément, puisque c'était comme ça que c'était écrit au début, que ça avait déjà cette forme de sitcom, c'était d'autant plus facile de retrouver ce ton-là dans la série. Toutes des qualités qui se retrouvent dans les livres, en vérité. Alors, parce que lorsque Channel 4 a annoncé qu'ils allaient essayer de reproduire tel quel les romans en série, ils ne se sont pas foutus de la tête du téléspectateur parce que tout ce qui se retrouve dans le bouquin se retrouve à l'image. Les dialogues sont dans la plupart des cas exactement les mêmes dans les bouquins que dans la série. Ils étaient déjà écrits d'une façon déjà très parlée, donc c'était assez facile de les retrouver comme ça. L'intrigue et les histoires parallèles se répondent également à l'appel. Ils sont tous présents. Il s'agit très certainement d'une des adaptations les plus fidèles qui soit. Trop fidèle, j'irais jusqu'à dire trop fidèle.
J'allais te poser la question.
Voilà.
Quel intérêt finalement ?
Voilà, c'est le défaut majeur que je vais soulever, puisque si vous avez lu les livres, la série n'a finalement que très peu d'intérêt puisqu'on y retrouve pratiquement tout. Et pour finir, il y a pratiquement aucune surprise à part retrouver certains acteurs. C'est pas dramatique dans le sens où la série reste regardable. Moi, j'avais lu les livres avant de voir la série. J'ai quand même apprécié le fait de voir la série, mais c'est vrai que ça m'a pas apporté grand chose. Par contre, si vous n'avez pas lu les livres, je vous conseille grandement de vous jeter dessus parce que c'est très agréable. Avec ses défauts du fait que c'est très proche des bouquins, c'est que les défauts des bouquins se retrouvent aussi dans la série. On peut noter donc certaines longueurs et certains passages un peu superflus, ainsi qu'une légère baisse de qualité à partir de la troisième saison. Le problème de Maupin est d'avoir voulu à chaque fois coller une intrigue policière à cette galerie de personnages, ce qui va très bien dans la première et dans la deuxième saison. Et dans la troisième saison, le problème, c'est que l'intrigue policière prend le pas sur la galerie de personnages et on s'intéresse plus à l'intrigue policière. Et donc, certains personnages sont mis en retrait et ça devient moins amusant, moins drôle à regarder, même si ça reste de qualité. Et puis, ça fait un petit peu trop aussi, parce qu'on a déjà vu la première saison, on se dit, bon voilà, il traverse déjà pas mal de choses. La deuxième saison aussi. La troisième saison, on se dit, bon, quand même, tant d'événements pour de ces personnages, c'est quand même un peu abusé, surtout qu'il y a des invraisemblances ou alors des personnages qui se retrouvent de façon un peu... on se dit, oula, le hasard fait bien les choses, mais là, un petit peu trop quand même. Et puis aussi, les personnages finissent par rencontrer des situations un peu trop semblables. Michael se sépare de John, et puis il va avoir un certain nombre de conquêtes masculines, et puis il se remet avec John, et puis ainsi de suite. Donc voilà, puis Marianne Singleton qui va aussi multiplier les hommes à problème. Alors un coup ils vont être amnésiques, un coup ils vont être pédophiles, un coup ils vont être coureurs de jupons. Bon, ces quelques critiques mises à part, ça ne doivent pas effacer quand même mon propos qui est que ça reste une excellente série. On va pas non plus faire la fine bouche, c'est quand même une adaptation très réussie, même si elle est trop fidèle, quoi. C'est une série, bon allez, pour résumer, ça se situe entre le soap opera, la sitcom, le roman social. Donc les Chroniques de San Francisco sont un véritable, moi je l'appelle ça un chef-d'œuvre, on va dire ça. Moi, je trouve que c'est vraiment bien tapé et c'est très léger et elle est bourrée d'humour, de tendresse et aussi de suspense. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la série a été nominée aux Grammy Awards et aux Emmy Awards.
Donc tu la conseilles ?
Je la conseille, mais d'autant plus si vous n'avez pas lu les livres.
D'accord, merci beaucoup Nat, à la prochaine.
Merci Sarah.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.